Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, restaurants, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Vous écoutez le 55e épisode de Serial Entrepreneur. J'ai reçu Benjamin Blavier, cofondateur et coprésident de l'association Article 1. Né de la fusion de deux associations majeures de lutte contre l'inégalité des chances, Fratelli et Passeport Avenir, Article 1 œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Pour une société où la réussite passe par le lien social et l'engagement citoyen. Benjamin n'est pas un entrepreneur comme les autres, c'est un entrepreneur social. Dans ce podcast, il m'a confié vouloir bouger les stats de la mobilité sociale en France. La mobilité sociale, c'est le changement de position sociale d'une personne par rapport à celle de ses parents ou par rapport au cours de sa vie. Ce sont des sujets qui me touchent tout particulièrement et que j'aimerais aborder de plus en plus dans ce podcast. Article 1, c'est déjà plus de 120 salariés et plus de 15 000 bénévoles qui œuvrent pour permettre à chaque talent de choisir et de construire son avenir avec confiance et ambition à travers du mentoring. L'association est notamment lauréate principale du dispositif Un jeune, un mentor, visant à soutenir des projets de mentorat en France. Elle est notamment missionnée par le gouvernement. Dans ce 55e épisode passionnant, vous pourrez écouter et découvrir toute l'histoire inspirante de Benjamin, entrepreneur social et engagé. La création d'Article 1 et la volonté de faire bouger les stats en France, on en parlait justement dans l'introduction. La mission de l'association et l'importance du mentoring chez les jeunes. Ou comment 3 heures par mois peuvent changer une vie. Mais encore, le moment le plus difficile de son aventure et ce dont il est le plus fier aujourd'hui. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts si le podcast vous plaît. De vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode et Serial Entrepreneur à votre réseau en n'hésitant pas à me taguer et de me rejoindre sur Instagram, @serialentrepreneur avec un S et le tiré du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Benjamin.
Bonjour.
Ce qui m'intéresse toujours, c'est de commencer par le parcours et de savoir dans quel environnement tu as grandi.
Bon, écoute, mon parcours, moi j'avais 52 ans. J'ai des parents qui sont... issus d'une lointaine immigration, puisqu'ils sont arrivés, mes 4 grands-parents sont arrivés en France. Les uns étaient ouvriers agricoles, les autres étaient ouvriers dans l'industrie, et ils sont venus en France chercher du travail, comme beaucoup. En arrivant de Russie, en arrivant d'Italie, et en ayant fait un tour par le Brésil, et en arrivant de Belgique. Et ils se sont retrouvés au centre de la France. Moi, j'ai grandi ensuite dans un environnement un peu particulier, puisque j'ai grandi sur l'île de la Réunion, voilà, qui est un melting pot culturel assez extraordinaire. Et je suis arrivé en métropole en fin de lycée, en seconde, pour faire ma scolarité en région parisienne. Et depuis, je suis resté en région parisienne. Voilà, donc moi, mon environnement familial, je dirais que c'est un environnement familial assez propice à l'entrepreneuriat, parce que mes parents étaient... entrepreneurs, petits entrepreneurs. Ils ont été salariés pendant quelques temps, puis ensuite ils ont créé une petite activité. Enfin, ils faisaient de la visite médicale, voilà. Et ils ont fait une petite activité après, puisqu'ils avaient travaillé dans les DOM, c'est-à-dire qu'ils ont créé une microstructure qui faisait de la visite médicale dans les DOM pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. Donc voilà, j'ai un peu grandi dans cet environnement où on vivait relativement modeste, mais en tout cas, on essayait de vivre libre. Et y avait déjà effectivement cette idée que l'école est un levier pour essayer de s'en sortir, l'accès au savoir. Et puis, l'entrepreneuriat est quelque chose qui n'a jamais trop effrayer la famille, voilà, l'entrepreneuriat, l'idée de se bouger, l'idée de tenter sa chance dans d'autres endroits, voire même dans d'autres continents, c'est des choses que j'ai pu entendre dans mon histoire familiale.
Et à la fin de tes études, qu'est-ce que tu avais envie de faire et qu'est-ce que tu as fait du coup?
J'ai fait des études de droit, j'étais à la fac. D'abord parce que je savais pas qu'il y avait vraiment autre chose. J'avais vaguement entendu parler des prépas et ce genre de trucs, mais je m'étais dit que c'était pas pour moi de toute façon. Et donc quand j'étais en fac en droit, assez souvent on vient en droit sans beaucoup de certitude. Hein, c'était mon cas. J'étais là comme beaucoup sans trop savoir. Mon idée c'était au départ vaguement d'être journaliste. Puis j'ai fait du droit et dans mes études de droit, c'est très vaste le droit, mais j'ai été assez intéressé par le droit du travail. Voilà, c'est le truc que j'ai trouvé le plus politique, le plus mouvant, le plus j'allais dire cranté dans la réalité, quoi. Voilà, parce qu'il se passe toujours plein de choses, c'est très discuté, ça nourrit plein de débats. Il y a un fond sociologique, il y a un fond politique, et du coup, j'étais plus intéressé par ça que par d'autres choses. Donc, j'ai fait une spécialisation en droit. Et puis après, je pouvais être soit inspecteur du travail, soit en ressources humaines. Ça dépendait de quel côté de la force on voulait se placer. Et puis, moi, je suis parti du côté des ressources humaines en entreprise, avec ma spécialisation juridique. C'était ce qui me correspondait le plus. J'ai toujours été intéressé par la question des rencontres. J'ai toujours été intéressé par regarder comment fonctionnent les individus, comment fonctionnent les collectifs. J'avais essayé de faire ça en droit et aller en ressources humaines, qui est un métier que j'idéalisais un peu. Hein, dans la vraie vie, c'est pas exactement. On va reparler, mais c'est pas exactement ce que j'en attendais quand j'étais étudiant, ça me semblait la suite la plus logique. Et puis, on était aussi dans une période un peu compliquée, c'était 92, il y avait aussi une crise de l'emploi, donc j'allais dire que, avec le diplôme que j'avais, un diplôme de M2 en droit du travail, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai trouvé un job, mais énormément d'autres dans ma promo ont eu beaucoup de difficultés. Donc j'ai eu une forme de bonne étoile qui m'a permis de trouver un job assez facilement dans ce qui m'intéressait.
Et on va passer directement à Passeport Avenir, justement après ces premières expériences de salariat. Donc tu crées Passeport Avenir qui est effectivement une association d'intérêt général. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de cette association et de comprendre comment et pourquoi tu l'as créée?
Je l'ai créée parce que j'ai fait 15 ans de salariat avant. Enfin, 15 ans, ouais, c'est ça, 92-2005, un peu moins. Et quand j'ai fait du salariat, j'étais en ressources humaines. Et ce que je voyais de ce métier de ressources humaines je m'attristait un peu. C'est-à-dire qu'en gros, c'était beaucoup un métier où on ajustait les tuyaux d'entrée et de sortie, on recrutait, on virait, on s'occupait un peu de la paix sociale, mais ça n'allait pas bien loin. Et moi, j'avais une vision peut-être un peu plus idéalisée de ça. Je me disais, c'est quand même dommage, les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour insérer, pour jouer le jeu de la diversité, pour aller chercher les talents au-delà des étiquettes. Et elles ne le font pas. Et je trouve ça dommage, voilà, parce que l'entreprise, c'est un lieu d'inventivité, c'est un lieu où on sait prendre des risques, c'est un lieu où on sait dire non, c'est un lieu où on peut même faire des erreurs. C'est moins facile en politique publique, ça pardonne pas. Donc moi, je trouve que l'entreprise est un terrain de jeu formidable et je voulais faire ça. Donc j'ai planché sur des initiatives d'insertion, je travaillais sur la question de la diversité en entreprise dès que j'ai été DRH en fait. Et à un moment, j'étais chez SFR et j'ai eu une chance assez extraordinaire, c'est que j'étais arrivé chez SFR, à l'époque j'étais Vivendi, parce que je parlais anglais, j'avais bossé avant chez Apple, ils avaient des ambitions à l'international, et je suis arrivé dans ce contexte, et il y a eu une crise, c'était la crise de l'internet à l'époque, la bulle avait explosé, c'est vieux, mais voilà, ça a existé, donc du coup il n'y a plus d'expansion à l'international, et on m'a dit, écoute, réfléchis à ce que tu as envie de faire, voilà. Et donc moi je leur ai dit, écoutez, je vais vous proposer quelque chose, j'étais en RH, j'aurais dit, on va travailler sur un sujet, quand vous prononcez le nom de l'entreprise, SFR, vous êtes plutôt mal vu à l'époque. On vous tombe dessus parce que l'entreprise est jeune, parce que vous gagnez de l'argent, parce que vous êtes vu un peu comme des mercenaires, parce qu'on ne connaît pas votre histoire et votre ancrage. Donc j'avais dit, on va travailler sur cette question et on va essayer de réfléchir au sujet de société sur lequel on peut faire quelque chose. C'était le début de la RSE, de ces trucs-là. Ça ne s'appelait pas comme ça. Et donc j'ai eu un titre un peu étrange qui était le titre de directeur citoyenneté. Voilà, c'est un peu étrange. Et donc du coup, voilà, j'étais une forme d'intrapreneur. C'est, on m'a dit, en gros, crée tes chantiers et qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc j'ai travaillé sur les questions de diversité, j'ai travaillé sur les questions de lien avec le monde associatif, et puis surtout j'ai pu lancer effectivement une initiative qui s'appelait Passeport Ingénieur à l'époque, parce que l'idée c'était comment faire en sorte d'avoir dans l'entreprise des jeunes ingénieurs, des jeunes cadres qui ressemblent à ce qu'on voit dans la rue. Voilà. Alors que ceux que je voyais sortir des écoles d'ingénieurs, il n'y avait pas une énorme diversité. Il y en a plus que dans les écoles de management, mais pas tant que ça. Et donc, c'était ça l'idée. Et je me suis inspiré un peu de mon histoire perso. C'est-à-dire que je me suis dit, quand on va voir dans les écoles d'ingénieurs et en amont des écoles d'ingénieurs dans les lycées pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de diversité à la sortie, le constat, c'est qu'on rencontre des jeunes qui vous disent « ce qui m'a manqué, c'est de l'info ». Je ne sais pas ce que c'est que la réalité des métiers, je ne sais pas quel est l'écart de salaire, je ne sais pas pourquoi ça vaut la peine de faire des études supérieures longues alors que avec mon bac plus 2, je peux m'en sortir et je suis peut-être même le premier diplômé du supérieur de ma famille. Il y avait aussi une question de manque de réseau. Voilà, personne ne peut m'enseigner sur les métiers, je vais avoir du mal à trouver un stage, je ne sais pas comment me présenter, j'ai bien jamais passé un entretien. Puis il y avait surtout une question de manque de confiance. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'ai pas les moyens, j'y arriverai jamais, c'est pas mon monde. Et ça, mon constat, c'était que les acteurs de l'école font ce qu'ils peuvent, les profs font ce qu'ils peuvent, ils sont en première ligne, ils font leur possible, mais à un moment, on est dans une espèce de grande blague en France, c'est-à-dire qu'on fait croire que les profs tout seuls dans leur coin vont permettre de surmonter toutes ces questions et toutes ces inégalités, et ça, c'est juste pas possible. Les profs, il faut qu'ils travaillent sur les contenus pédagogiques, sur la carte scolaire, sur la façon d'enseigner, sur les modes de sélection, enfin tout ça évidemment. Mais par contre, tous les freins culturels, matériels, psychologiques et le manque d'infos qui existent, c'est pas eux qui peuvent faire quelque chose. Et donc là, je m'étais dit, il y a une place. On peut aller chercher des volontaires en entreprise, les mettre en face de ces jeunes et faire en sorte de les accompagner pour qu'ils aillent le plus loin possible. C'était ça, Passeport Avenir. C'était juste ça. C'était l'idée de créer une connexion assez tôt, au niveau du bac, avec des jeunes qui avaient du potentiel pour faire des études longues, mais qui l'avaient pas forcément dans la tête parce que il y avait ni le réseau, ni l'info, ni la confiance, et les booster le plus loin possible. Enfin, c'est né comme ça, et en 2005, je l'ai lancé en interne chez SFR pendant un an. Et puis, comme ça a bien marché, après, dans la foulée, en 2006, on a créé une association.
Quelles ont été un peu les grandes actions, en tout cas les typologies d'actions qui ont été menées chez Passeport Avenir ?
C'était essentiellement ça. Ça a démarré par du mentorat pour des jeunes qui voulaient devenir ingénieurs. Donc, en gros, on allait chercher des élèves en BTS et on les convainquait de faire une année de plus en prépa, dans des prépas partenaires, avec des mentors, et ensuite on leur disait quand tu seras en école d'ingé, on t'accompagnera de bout en bout. Et donc on avait du mentorat individuel, puis après toute une série d'ateliers collectifs qu'on pouvait leur proposer pour essayer de les faire progresser. Donc quand ils étaient en BTS, on leur faisait des ateliers sur, par exemple, la préparation des oraux, pour chercher une alternance, pour chercher un stage. On leur faisait des ateliers sur le financement des études, pour les rassurer sur le fait que s'ils continuaient leurs études, ils allaient pouvoir trouver des solutions de financement. On les a beaucoup aidés sur la recherche de stages. On les a aidés à partir à l'international, parce que c'est des gamins qui n'en avaient pas la possibilité ou se l'interdisaient. Et puis évidemment, on aidait avec les mentors à faire en sorte qu'ils puissent au final trouver un job, ce qui se faisait dans l'immense majorité des cas. Donc c'était essentiellement ça, relations individuelles, avec en plus des ateliers, des contenus collectifs, des aides matérielles qu'on pouvait leur proposer pour les aider. Mais je donne un exemple concret parce que c'était assez sympa. On était vraiment parti de trucs très pragmatiques. Par exemple, on avait constaté que après la prépa, y a beaucoup de jeunes qui font le tour de la France pour aller passer des concours. Enfin, ça c'était avant confinement, mais en tout cas, voilà, ils faisaient ça. Et du coup, ça leur coûtait une fortune, parce que d'une part, il fallait payer les concours, et d'autre part, il fallait se payer l'hébergement, se payer les transports, des choses comme ça. Et le résultat, c'est que les jeunes qui avaient le moins d'argent, forcément, ils se censuraient. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivaient pas aux écoles les plus prestigieuses parce que les chances de pouvoir y accéder étaient vraiment minimes. Donc, du coup, ils se l'interdisaient. Voilà, là où quelqu'un qui était un peu mieux, un peu plus à l'aise financièrement, pouvait tenter l'école en se disant j'ai peut-être une chance sur 50, mais au moins je l'essaye. Voilà, et ça, moi, je trouvais ça inacceptable. Donc, on a mis en place des trucs. C'était vraiment très concret. On avait négocié avec une chaîne d'hôtellerie vraiment très... j'allais dire low cost pour avoir des tickets d'hébergement pour que les jeunes puissent aller être hébergés dans des hôtels aux quatre coins de la France. On avait négocié avec SNCF pour avoir des billets à prix réduit pour qu'ils puissent passer leur concours. C'était sur le mois de mai, sur le mois de juin, c'était concentré pour pas qu'ils puissent partir en vacances avec, hein, mais en gros ils pouvaient avec ces tickets faire leur tour de France. Et puis, on avait négocié avec les concours, voilà, ceux qui gèrent les concours, pour faire en sorte qu'il y ait des tarifs réduits, voire coûts gratuits pour les boursiers. Voilà. On a lancé un peu ça, puis après, ça a été repris et généralisé. Mais c'était le genre d'initiative très concrète qu'on pouvait, nous, essayer de prendre. Donc, c'était vraiment en partant des besoins des jeunes. OK, où sont les freins? Et on essaye de voir lesquels on peut lever un par un en allant discuter directement avec des partenaires et sans être acteur public, c'est-à-dire qu'on avait aussi cette liberté que l'État n'a pas, et cette indépendance d'aller directement s'adresser à ces acteurs.
Alors, on est vraiment sur les prémices d'Article 1, puisque Passeport Avenir a fusionné avec Fratelli en 2017 pour créer justement cette association. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Mais j'aimerais quand même revenir sur la totalité de ton parcours, parce qu'il est quand même très riche. Et ce qui s'est passé, alors 2 ans après la création de Passeport Avenir, tu as créé aussi l'ARPEJ, qui est une association qui permet d'accompagner la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés. Est-ce que tu pourrais me parler de cette association?
Oui, alors je l'ai co-créé, on était avec notamment Guy Tisserand qui gère un cabinet de conseil sur les questions de handicap dans l'entreprise. J'étais encore chez SFR et ce que je faisais avec Passeport Avenir, je m'étais posé la question de comment on pourrait envisager la même chose pour des jeunes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour eux, pour les aider dans leur parcours d'études? Sauf que la question se posait en termes radicalement différents. Le gros du sujet pour les jeunes en situation de handicap, c'est le pré-bac. C'est comment on les aide à aller jusqu'au bac. Voilà, parce qu'il y en a très peu qui passent le cap du bac et très peu qui sont dans les études supérieures. Et j'allais dire, quand ils sont dans les études supérieures, ça reste dur, ça reste contraignant, mais là, il y a déjà un certain nombre d'aides et les entreprises en particulier sont plutôt friandes des profils bac plus en situation de handicap. On a quand même des taux de chômage importants, etc. Mais on va dire, si vous avez un bac plus et que vous êtes en situation de handicap, vous avez beaucoup plus de chances de rentrer dans l'emploi. Et l'immense majorité, à l'époque, c'était plus de 80% des jeunes en situation de handicap ne vont pas jusqu'au bac. Donc, il y avait un enjeu très différent. Le Passeport Avenir, c'était pour les bac plus. Et le sujet, c'était, il faut aller travailler sur les collégiens, sur les lycéens, pour essayer de faire en sorte qu'ils aillent le plus loin possible. Mais c'est en amont du bac, et donc il faut monter d'autres initiatives. Donc, on a effectivement créé ARPEJ. ARPEJ, c'est accompagner les réussites des projets d'études de jeunes en situation de handicap. C'est ça l'acronyme. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir des jeunes en situation de handicap, d'aller voir les communautés pédagogiques, les profs, pour leur parler des métiers, des filières d'études que l'on pouvait faire quand on était un jeune en situation de handicap, et surtout de montrer que les entreprises étaient prêtes à s'investir et à accueillir ces jeunes. Donc il y avait un peu de logique de mentorat comme dans Passeport Avenir, mais il y avait surtout aussi beaucoup des logiques d'information des parents, d'information des jeunes, de visite d'entreprise, de découverte de métiers que les jeunes n'envisageaient pas. Un exemple, les jeunes en situation de handicap, si je prends les malvoyants par exemple, ben en fait il y a une il y a des propositions de métiers qui sont très stéréotypées. Quand on parle des métiers de handicap visuel, en gros on leur propose des métiers qui sont un peu toujours les mêmes. Et nous, notre idée, c'était de dire, il faut qu'on casse un peu ça et qu'ils se disent que finalement, il y a plein de métiers qui sont possibles, même en ayant un handicap visuel. Et donc, on faisait venir les entreprises pour qu'elles présentent toute la palette des métiers qui étaient possibles. L'idée, c'est vraiment d'élargir les horizons et de faire en sorte que ces jeunes se projettent en confiance en se disant, au bout, il y a quelqu'un qui m'attend et je peux tracer ma voie, même si c'est pas évident, je peux tracer ma voie, aller au moins jusqu'au bac et pourquoi pas au-delà.
Ouais, donner un maximum de pistes à ces jeunes justement pour qu'ils aient toutes les informations pour choisir le métier qui leur plaira par la suite, quoi.
Exactement, c'est toujours ça. Moi, Passeport Avenir ou Arpège, finalement, le métier, c'est connecté, la même chose. Finalement. C'est connecté, c'est lutter contre les barrières mentales et les barrières matérielles, les deux, qui peuvent exister. Et en impliquant les entreprises pour qu'elles-mêmes fassent le geste de venir montrer qui elles sont et comment elles peuvent accueillir ces profils.
C'est vrai que ton parcours est vraiment super connecté, justement, et très cohérent, parce que c'est vrai que dans le podcast, on peut voir aussi des entrepreneurs qui font différents projets, qui n'ont rien à voir, qui sont totalement différents, etc. Et c'est très bien aussi. Mais là, c'est vrai que c'est particulier. On va aussi parler des deux autres projets avant de revenir à l'article 1, c'est les entreprises pour la cité et également plus récemment l'ascenseur. Alors, les entreprises pour la cité, c'est il y a une douzaine d'années, on va dire, en 2008.
Ouais.
Où tu étais directeur de diversité et relations entreprises des entreprises pour la cité. Est-ce que tu pourrais me parler de ça ? Donc, j'imagine que c'était justement pour accompagner des jeunes, peut-être et moins jeunes aussi, à entreprendre et de milieux défavorisés, c'est ça ?
C'était, c'est toujours, hein, ça, c'était à l'époque, pas un think tank, mais un do tank. En gros, c'était un club de mise en action, quoi. Qui réunissait des entreprises où on partageait sur des sujets de responsabilité sociale des bonnes pratiques, des expertises et des initiatives qu'on mettait en commun. Et à l'époque, moi, j'étais arrivé en particulier sur le sujet de la diversité. C'était les débuts, il y avait le label diversité, il y avait la charte de la diversité en 2004. Il y avait beaucoup d'entreprises qui commençaient à mettre en place des responsables diversité en leur donnant mandat pour mettre en place des plans de lutte contre les discriminations et pour favoriser la diversité à l'intérieur des entreprises, commençaient à se mettre en place ces réseaux. Et puis, il y avait besoin d'expertise, de lieux d'échange pour, en gros, aider les entreprises à progresser. Donc, moi, je suis arrivé dans ce contexte. Il y avait déjà eu la charte de la diversité qui avait été lancée. Et donc, moi, comme j'étais un peu engagé sur ces sujets et que j'étais RH par ailleurs, je me suis dit, c'est le bon endroit. Voilà, c'est le bon endroit pour faire progresser la question de la diversité en entreprise en ayant un regard, pas forcément militant extérieur qui dénonce les pratiques des entreprises, mais quelqu'un qui sait de l'interne comment ça fonctionne. C'est-à-dire, un recruteur dans une entreprise, il peut pas me la raconter à moi sur comment on fait un recrutement, quoi. J'en ai fait pendant 10 ans. Donc, je sais comment il fonctionne. Voilà. Donc, je sais quels sont ses biais, je sais à quel moment il y a des risques de discrimination, je sais comment on peut les contourner, je sais quels sont les outils que l'on peut mettre en place si on a un peu de volonté, un peu d'argent. Et donc, du coup, c'était cette posture-là qui m'intéressait. C'était vraiment comment aider les entreprises à progresser sur ce sujet de la diversité sur les sujets d'insertion. Donc oui, on a fait des trucs très sympas. On a bossé déjà beaucoup sur le label diversité qui permet aujourd'hui d'attester que les entreprises font des choses concrètes pour lutter contre les discriminations. On a mis en place beaucoup de programmes d'audit diversité qu'on allait faire dans les entreprises. Donc voilà, c'était une posture de conseil. On débarquait et puis on analysait tous les process. Puis à la fin, on leur faisait un rapport un peu plus ou moins sanglant pour leur dire, voilà où vous en êtes sur différents enjeux de diversité avec des recos, des choses que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc c'était cette posture-là qui a permis de faire travailler la diversité et de faire prendre conscience aux entreprises de tout ce que ça recouvrait. Donc par exemple, on a beaucoup travaillé évidemment sur la question des jeunes des quartiers, donc la diversité culturelle, comment on fait pour l'intégrer, tous les stéréotypes associés, etc. Mais on a aussi posé les bases de toute la réflexion sur la diversité liée à l'orientation sexuelle. On a pas mal parlé déjà à l'époque de religion, comment on gère la diversité religieuse dans une entreprise avec toutes les questions que ça, des fois très conflictuelles que ça peut supposer. Voilà, donc c'était ce boulot-là que l'on a mené. Exemple concret, par exemple, on a publié des guides à destination des entreprises où on avait fait des petites analyses et des enquêtes sur les stéréotypes liés par exemple à la question des origines ou liés par exemple à la question du handicap dans les entreprises. Alors, quels sont les stéréotypes existants dans la tête des managers, qu'est-ce qui est efficace pour les contourner, quels sont les outils, est-ce que c'est de la formation, est-ce que c'est justement faire du mentorat de quelqu'un qui est en situation de handicap. Enfin, voilà, on va comparer un peu les différents outils. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans. Je le faisais en parallèle de Passeport Avenir, parce que Passeport Avenir était encore relativement balbutiant. Je m'étais dit, je vais faire 2 jobs en même temps, ce qui est rarement une bonne idée. Au bout de 3 ans, il a effectivement fallu que je choisisse et j'ai choisi Passeport Avenir.
C'est vrai que c'était très précurseur, tous ces sujets, quand même, à l'époque. Comment est-ce que tu as perçu l'évolution de ces sujets il y a une quinzaine d'années et jusqu'à aujourd'hui?
Très, très favorablement. C'est-à-dire que, effectivement, en 15 ans, ce qu'on voit, c'est que les entreprises s'en sont emparées sur les questions de diversité, sur les questions d'engagement des collaborateurs via le mentorat, mais il y a aussi d'autres formules sur lesquelles les gens peuvent s'engager. Je pense que, ouais, effectivement, moi j'étais peut-être parmi les premiers à en parler parce que c'était une conviction assez profonde chez moi de dire que les gens en entreprise ne viennent pas bosser que pour améliorer l'EBITDA ou le cash flow. Ça marche plus. Ça marche pas. Là, c'est de plus en plus affirmé, en particulier par les jeunes générations, mais c'est pas récent. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens affichaient une posture en entreprise qui n'était pas leur envie réelle et ils se sont de plus en plus affirmés en disant OK, je bosse pour améliorer le cash flow et l'EBITDA, mais pas que. Je veux aussi que mon entreprise soit responsable, soit impliquée, etc., etc. Donc ça, on l'a vu s'affirmer petit à petit. Moi, je suis ça évidemment avec beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire que je vois que les entreprises sont de plus en plus actives. Ce qui m'intéresse, c'est une espèce de tournant qu'on voit, je crois, depuis 1 an ou 2, qui est que sur toutes ces questions de diversité, de RSE, d'engagement, de sens au travail, tout ça a été vu jusqu'à il y a 1 an ou 2 comme sympathique mais accessoire. Un peu périphérique, quoi. Faut le faire.
Un accessoire communication, quoi.
Ouais, voilà, on le fait parce que nous demande il y a certains Uberlu nous posent des questions, donc faut qu'on ait la réponse quelque part dans une plaquette de code ou sur notre site web. Mais voilà, c'était assez annexe. Et là, la grosse différence, c'est que je trouve que depuis 2 ans, en tout cas au niveau des directions d'entreprise, il y a beaucoup plus d'envie d'agir. Il y a beaucoup plus d'envie de pas laisser ces sujets de responsabilité sociale un peu à l'extérieur en périphérie, mais de l'intégrer au cœur de l'activité. Beaucoup de dirigeants, pas tous, hein, il y en a qui s'en foutent, mais beaucoup de dirigeants, à titre personnel, ont envie, eux aussi, dans leur job, de faire autre chose que du cash, et arrivent de plus en plus à embarquer leurs équipes et leurs actionnaires. Ça, c'est assez nouveau. Ça fait 2 ans que je peux parler à des PDG d'entreprises qui ont du répondant quand je leur parle de discrimination, de diversité, d'inclusion, d'insertion, de lien social, parce que c'est des sujets sur lesquels ils ont réfléchi, sur lesquels ils s'intéressent, sur lesquels ils se demandent quoi faire. Alors qu'il y a 2 ans, ils me renvoyaient vers leur DRH ou leur patron de formation. Et ça, je trouve que c'est une nouveauté assez stimulante, parce qu'on est dans le début d'un vrai changement. Après, je ne me fais pas d'illusions, je pense que c'est encore relatif. Je fréquente surtout des grosses boîtes et c'est peut-être pas le cas partout.
C'est sûr. Et finalement, toi, c'est toute une mission de vie et ces associations, ces projets, ce sont un peu des outils justement pour mener à bien cette mission. On va parler de l'ascenseur, alors qui a été créé après Article 1, puisque Article 1, ça a été créé en 2018.
Ouais.
l'ascenseur en juin 2019, mais justement avant de se concentrer sur l'article 1 et tout ce que toutes les actions que vous menez au sein de cette association, j'aimerais parler un peu rapidement de l'ascenseur qui est justement un premier tiers-lieu européen dédié à la mobilité sociale et à la lutte contre les discriminations. Donc, encore une fois, un projet aussi lié à ces sujets très importants. Est-ce que tu peux me parler de la création de ce tiers-lieu et où ça en est aujourd'hui ?
En fait, c'est assez simple. La genèse de ça, c'est qu'on a fusionné Fratelli et Passeport Avenir pour créer Article 1, et donc on cherchait des locaux communs. Voilà, on cherchait des locaux communs, il fallait qu'on se regroupe, on avait des locaux à la Butte aux Cailles et des locaux près de l'Opéra, c'était pas très pratique, donc on cherchait un endroit pour se mettre ensemble. Et je me suis dit, bah, ce serait quand même dommage de ne prendre des locaux que pour nous, on pourrait se regrouper à plusieurs pour avoir un lieu où on puisse parler d'une seule voix de ces enjeux d'inclusion et d'égalité des chances. C'était ça l'idée que j'avais dans un coin de la tête. En gros, mon constat, c'était, bon, j'ai lancé mon asso il y a 15 ans, il y a plein d'autres initiatives qui se sont lancées dans les 5 à 15 dernières années, qui ont remarquablement grandi, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a un besoin sur le terrain, et qu'elles sont bien gérées par ailleurs, mais ça répond à un besoin sur le terrain. Et globalement, mon sentiment, c'est on n'est pas à l'échelle. On n'est pas à l'échelle quand on regarde l'ampleur des difficultés. On n'est pas suffisamment audible. On a une image dans le monde associatif d'être des acteurs assez éparpillés, pas forcément capables de s'entendre, un peu en concurrence, porteurs de solutions différentes. Et c'est extrêmement compliqué pour des gens qui ont envie de s'investir à nos côtés, de savoir avec qui travailler, dans quelles conditions, etc. Voilà. Qu'il s'agisse des entreprises, des acteurs publics. Et je ne parle même pas des médias qui ont envie de comprendre un peu nos sujets et savent pas à quelle porte frapper. Mmh. Donc moi, je m'étais dit, et on y reviendra, mais c'est un peu l'idée d'article 1 aussi, c'est il faut qu'on ait plus de poids politique, il faut qu'on ait plus de poids médiatique, il faut qu'on soit capable de parler d'une seule voix, et il est temps de changer d'échelle. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc du coup, l'idée c'était faisons germer un lieu où on réunit des assos qui sont en ligne sur ce message, c'est-à-dire elles ont chacune leur mode d'action, mais on partage ses convictions sur il faut en faire plus pour que chaque jeune puisse accéder à la culture, accéder à l'école, accéder à l'emploi, indépendamment de son lieu de naissance, de sa fortune, de sa couleur de peau ou de son genre. Voilà, c'était ça l'idée. C'est très, empirique, quoi. Voilà, mais c'était une envie profonde. Donc, je suis parti avec ça sous le bras. J'ai été voir quelques potes. J'ai été voir Saïd Abouche à Mosaïque RH. J'ai été voir Claire de Mazancourt à l'Institut de l'Engagement. J'ai été voir quelques autres aussi. Il leur a dit, écoutez, si je trouve un local plus grand, est-ce que vous venez avec moi ? Et voilà, l'idée leur a plu, ils ont dit banco, donc on a commencé à chercher un lieu, et on a eu cette chance extraordinaire de tomber sur deux choses. D'abord un lieu, la Bastille, où on s'est dit, il y a une force symbolique, c'est ça qu'on veut, on veut être au centre de Paris pour que les décideurs puissent venir chez nous et comprendre ce que l'on fait, et que les jeunes puissent aussi s'autoriser le centre de Paris, ne sont pas condamnés à la périphérie. Donc c'est un immeuble à Bastille, haussmannien, classique, dans un lieu évidemment hautement symbolique. Enfin, Bastille, il s'est passé 2-3 trucs qu'on a envie de se remémorer. Et puis, l'autre chance extraordinaire, c'est d'avoir rencontré BNP Paribas. Enfin, je suis rentré dans le bureau d'Antoine Cyr, qui ne me connaissait pas. Et au bout d'une heure, je suis ressorti avec un gars qui m'a dit « Ok, banco, je vous suis, je mobilise mes équipes pour vous aider à trouver le lieu, négocier avec le proprio, décrocher un prêt financier, et aller chercher d'autres assos et faire le lancement avec vous. » Donc voilà, j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir quelqu'un qui y a cru, quoi. Je ne sais pas quelle est la relation en général entre les banquiers et les entrepreneurs, mais moi, je crois que j'ai eu de la chance.
Ça dépend des entrepreneurs.
C'est justement. Ça, je crois.
Ouais. Ok, super, super intéressant. On va du coup pouvoir passer à Article 1, qui est une association qui œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Pour une société où la réussite passe par le lien social et l'engagement citoyen. Votre mission, c'est de permettre à chaque talent de choisir de construire son avenir avec confiance et ambition. Et votre méthode, c'est le mentorat. Donc, Article 1 n'est pas né comme ça par magie. C'est né de la fusion entre Passeport Avenir, ton premier projet avec Fratelli en 2017, fin 2017. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières années, puisque vous avez été lauréat du dispositif Un jeune, un mentor, visant à soutenir des projets de mentorat en France. Et du coup, c'est missionné par le gouvernement pour passer de 2000 à 20 000 binômes d'ici décembre 2021. Donc, c'est très bientôt. Ouais. Est-ce que tu peux... alors, on va également aussi parler de la plateforme demain.org. À la place du i, on met un 1, demain.org, qui a été mise en ligne en septembre 2021. Est-ce que tu peux me parler de tout ça?
Oui, bien sûr. Petit point pour revenir sur l'histoire. Effectivement, Fratelli est né à peu près en même temps, un peu avant nous, enfin avant Passeport à venir, en 2004. Et on faisait exactement la même chose. C'était du mentorat de jeunes issus de milieux défavorisés, plutôt prometteurs, pour les booster dans leur parcours d'études et faire en sorte qu'ils aillent le plus loin possible. Le fondateur de ça, Boris Valbaum, je ne le connaissais absolument pas, et on a fait grandir nos deux assos en parallèle. C'est quand même assez,
c'est génial.
Assez symbolique, parce que c'est en France que sont nés les deux principales assos de mentorat pour des étudiants dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut quand même dire quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un besoin. Enfin, voilà, on sait qu'on est dans le dernier quart des pays de l'OCDE quand on regarde le poids de l'origine sociale sur la possibilité de faire des études. Donc, en gros, c'est du terrain, du privé, en format associatif, que sont nées deux initiatives qui ont essayé de bouger un peu les choses. On n'est pas les seuls, hein. Il y en a plein d'autres et les écoles se bougent aussi, mais bon, voilà, je relève juste ce point-là. Et à un moment, on a commencé à discuter avec Boris, pas parce qu'on était concurrents, hein, le terrain de jeu est suffisamment vaste et il y a largement des choses à faire, mais en gros, on avait le sentiment qu'on atteignait l'un comme l'autre une forme de plafond de verre. On se disait, ben voilà, on a quelques milliers de bénéficiaires chacun, on pourrait continuer. C'est pas très compliqué, hein. Vous mettez une ou deux innovations par an, un bel événement, et puis voilà, vos sponsors restent liés, vous grandissez pas forcément, et on aurait pu continuer l'un comme l'autre jusqu'à nos retraites respectives, mais ça nous intéressait pas, parce que en gros, ce qu'on s'est dit, c'est ben là, on n'a pas les moyens de changer d'échelle, et on est en train de devenir deux assos alibi, deux assos caution, quoi. Voilà, c'est-à-dire on sort suffisamment de jeunes pour expliquer que quand on veut, on peut, que le mérite, ça marche, voilà, quelques milliers de jeunes par an, mais la réalité, c'est que ça cautionne un système qui est massivement inégalitaire. Voilà, et donc, on ne voulait pas ça. Et en gros, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire et ce qui s'est imposé à nous, c'était la fusion. Parce qu'on s'est dit, avec la fusion, on va pouvoir changer d'échelle en misant sur de la recherche, en misant sur du digital, qu'on n'a pas les moyens de développer chacun dans notre coin, et en prenant une dimension plus plaidoyer, plus politique pour parler de l'égalité des chances. Voilà, d'où le nom. Article 1, c'est un nom très politique, hein, c'est une déclaration des droits de l'homme. C'est beaucoup plus grand que nous, le costume est beaucoup plus grand que nous, mais l'idée c'était quand même de faire sonner ça en rappel, quoi, en disant notre pays s'est construit sur cette promesse et on n'y est pas encore et il est temps de s'y attaquer. Voilà. Donc c'était ça. Et donc dans l'idée d'article 1, il y a toujours eu, dès le départ, l'idée de faire les choses en volume. Voilà. C'est pas quelques belles histoires. Moi, ce que je voudrais, c'est que d'ici 10 ans, on puisse dire, article 1, par ses actions et par son influence, a eu un impact sur les chiffres de la mobilité sociale en France. Voilà. Moi, je voudrais faire bouger les stats. C'est ça l'objectif. Donc, il faut évidemment faire du volume. Alors, effectivement, on s'est concentré sur trois métiers sur une tranche d'âge. Nous, notre job, c'est les 16-25 ans scolarisés, lycéens et étudiants. Donc, je ne sais pas faire, par exemple, ou pas bien faire les jeunes qui sont en situation de décrochage. C'est pas exactement notre métier, même si on a 2-3 outils pour eux, mais on est vraiment sur les 16-25 scolarisés avec 3 temps. La question de l'orientation en première et terminale, la réussite dans les études supérieures, entre bac et bac plus 5, et la question de l'accès à l'emploi. Voilà, c'est vraiment ça notre travail. Et à chaque fois, notre idée, c'est avoir une plateforme digitale pour le plus grand nombre, ouvert à tous les jeunes Français. Donc, sur l'orientation, il y a une plateforme qui s'appelle Inspire, où il y a 145 000 jeunes inscrits chaque année. Sur la réussite dans les études supérieures, c'est Demain, la plateforme dont on va reparler, sur le mentorat. et sur l'accès à l'emploi, c'est une plateforme qui s'appelle JobReady. Voilà. Et à côté de ces plateformes ouvertes à tous, notre idée, c'est concentrer ensuite du temps, de la ressource humaine, des moyens d'action sur les publics les plus défavorisés. Exemple concret sur l'orientation, 145 000 jeunes inscrits sur la plateforme, mais on voit chaque année 25 000 jeunes dans des ateliers dédiés à l'orientation qu'on va faire dans les lycées les plus défavorisés de France. Parce qu'on se dit qu'en plus du digital, eux, il faut aussi aller les chercher. C'est notre mission d'intérêt général de nous intéresser en particulier à ces publics-là. C'est ça le mode de fonctionnement digital associé à du présentiel sur les publics prioritaires, avec toujours de la recherche. Dans chacun de nos trois métiers, on a de la recherche pour essayer de faire en sorte de coller à la réalité des besoins et essayer d'avoir le plus d'impact. Voilà, donc ça, on vise les grands nombres. Article 1 cette année, ça va être 170 000 jeunes inscrits sur nos différentes plateformes digitales et 30 000 jeunes vus en présentiel ou en mentorat par des bénévoles de l'article 1 sur le territoire par an. Donc voilà, ça c'est le chiffre qu'on veut atteindre. Et puis, effectivement, on avait jusqu'à présent un manque. C'est que j'avais une plateforme digitale sur l'orientation. On a construit une plateforme digitale sur l'accès à l'emploi. Mais je n'avais pas l'outil digital pour arriver à changer d'échelle sur l'accompagnement dans les études supérieures qu'on fait via du mentorat. Voilà. Entre bac et bac plus 5, j'avais 2000 binômes de mentorat individuel qu'on avait constitué à la mano, j'allais dire, qui marche très bien. C'est de l'accompagnement qui dure entre 2 et 5 ans. On a des super résultats et des histoires extrêmement fortes d'engagement avec des jeunes qui sont extraordinaires, mais qui sont peu nombreux. Et donc, moi, ça fait un moment que, avec Boris, on se dit que c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à populariser le mentorat, à en faire plus, parce que la réalité, c'est que jusqu'à présent, l'État ne s'y intéressait pas. Et donc, pour financer du mentorat, il fallait avoir recours au financement par des entreprises, donc exclusivement privées, donc forcément un peu limité en volume, quoi. Enfin, on ne peut pas changer, la France avec du mentorat avec du mécénat qui le finance, il faut à un moment qu'une politique publique s'en mêle. Et là, l'État s'en est mêlé. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on raconte depuis 15 ans autour de l'impact du mentorat, et c'est pas simplement en France, c'est à l'échelon mondial, c'est-à-dire que c'est prouvé maintenant par la recherche que le mentorat, c'est un investissement relativement faible, et quand c'est bien maîtrisé, il y a un métier derrière le mentorat, quand c'est bien maîtrisé, ça a un impact extrêmement précieux pour booster les parcours des jeunes, le gouvernement a compris qu'il était temps d'accélérer et a effectivement lancé un appel à projet, un jeune à mentor, en mettant de l'argent sur la table, en disant on doit passer de 25 000 jeunes mentorés tout assaut confondu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On en avait 2000 là-dedans, enfin 2500, à 100 000 cette année, 200 000 l'année prochaine. Et donc cet appel à projet a été lancé, et nous on en a profité pour reproposer cette solution qu'on avait dans nos cartons depuis un moment, mais qu'on n'arrivait pas à financer, qui était de dire, ok, construisons un outil pour véritablement démocratiser le mentorat, faire en sorte qu'il soit accessible à tous les jeunes, quel que soit leur profil, mais aussi faire en face en sorte que n'importe qui, quasiment n'importe qui, puisse devenir mentor gratuitement, voilà, sans condition de diplôme non plus. C'est-à-dire que je veux que le mentorat il puisse être ouvert à tous. Un jeune qui est en prépa doit pouvoir être mentoré s'il le souhaite par quelqu'un qui est 4 sub dans une boîte et qui a fait une prépa et qui a ensuite fait un beau parcours. Mais ça doit être vrai aussi pour le jeune qui fait un bac pro en horticulture, qui doit pouvoir être aussi mentoré par un horticulteur qui va l'aider à trouver son stage et à trouver ensuite l'employeur qui lui correspondra et puis peut-être les spécialisations qui vont lui plaire. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que je pense qu'il est vraiment temps de démocratiser et de casser les codes du mentorat qui aujourd'hui sont plutôt réservés, pas dire une élite, mais aujourd'hui c'est quand même plutôt réservé à des jeunes qui sont défavorisés mais plutôt méritants scolairement, avec des publics qui sont aujourd'hui plutôt des cadres, un cadre sup qui ont un peu une liberté de gestion de leur temps. Donc cela, il faut le continuer bien sûr, mais nous on se dit, il faut aussi que des jeunes en bac pro puissent en profiter, il faut aussi que des jeunes qui ont des mauvais résultats scolaires et qui sont un peu perdus ou qui ont besoin de se réorienter puissent être accompagnés, il faut que tout le monde ait accès à cette solution, qu'on soit favorisé ou défavorisé. Voilà. Donc on le fera grâce à la plateforme demain.org, où en gros, cette plateforme, elle vous permet en tant que jeune de dire quels sont les besoins que vous avez. Je rentre en études supérieures, je viens de la campagne, je débarque dans une ville, je vis un choc culturel, j'ai besoin de soutien moral et d'un peu d'aide méthodologique pour réussir mes cours. Je suis à bac plus 2, je vais chercher une alternance, j'ai jamais passé un entretien de ma vie. Je suis à bac plus 4, j'aimerais partir à l'international, je sais pas comment faire, il faut que je parle mon anglais. Ou je suis à bac plus 5, va bientôt falloir que je cherche un job, j'hésite entre plusieurs jobs, mais personne n'est capable de me les faire découvrir. Voilà. Je donne quelques exemples très concrets de ce que les jeunes peuvent identifier. Et en face, nous on a des mentors qui disent, moi je suis prêt à passer 3 heures par mois pendant 6 mois sur tel ou tel sujet, voilà là où je peux aider. Et nous ensuite on fait le matching et on lance la relation pour qu'il y ait une forme d'entraide extrêmement concrète sur des sujets précis, où ça va avoir immédiatement de l'impact, parce qu'on sait que ce genre de rencontre, ça peut faire des petites victoires, aider à passer un examen, trouver un job, mais ça peut aussi changer des vies, quoi. Et on a aussi beaucoup de jeunes qui disent ça change des vies, parce que à partir d'un premier coup de main, on a construit une relation de confiance, puis mon mentor est resté à mes côtés sur d'autres étapes, etc., etc. Et c'est vraiment ça qu'on a envie d'instituer.
Je reviens à ce que tu disais, c'est vrai que le mentoring n'est pas démocratisé en France, autant dans l'entrepreneuriat, avoir un mentor, c'est quelque chose d'assez fréquent, d'assez naturel finalement, mais moi je me souviens à l'époque où j'étais étudiant, surtout lycéen notamment, ensuite en études supérieures, je me suis absolument jamais posé la question d'avoir un mentor ou même je pense que je ne savais même pas peut-être comment en avoir un et qu'est-ce que ça allait m'apporter finalement. Donc c'est vrai que la mission d'article 1 est hyper importante, je pense, versus tout ce que peut apporter, tout ce que ça peut apporter du mentoring justement à des jeunes. On a parlé du fait de comment devenir mentoré, mais on n'a pas parlé du fait de comment devenir mentor. Comment ça se passe si demain, quelqu'un qui nous écoute souhaite devenir mentor sur article 1 ?
Très librement, en fait. Ça se passe en 3 minutes d'inscription et ensuite une forme d'accord moral où on doit être OK pour passer 3 heures de son temps par mois pendant 6 mois à accompagner un jeune.
Ce qui n'est pas grand-chose.
Ce qui n'est pas grand-chose. Bien. Enfin, ça se trouve, ouais, franchement.
Oui.
Et puis c'est une moyenne. Hein, donc,
oui.
Il peut y avoir des mois où ça va être un peu plus si le jeune a besoin s'il prépare son entrée sur le marché de l'emploi, par exemple. Et puis il y avoir des mois aussi où il sera moins demandeur parce qu'il a des examens, parce qu'il est en vacances. Enfin, bref. Donc c'est vraiment une forme de moyenne. Il faut aller sur le site demain.org. Tout simplement, donc avec un 1 à la place du i, effectivement, et puis s'inscrire, ça prend 3 minutes, c'est gratuit. Vous verrez qu'on vous indique quelques items que vous pouvez cocher pour dire en quoi vous vous sentez capable d'aider un jeune. Ça peut aller de s'orienter, lui donner du soutien moral, jusqu'à l'aider à préparer des entretiens, découvrir un métier, parler une langue étrangère, enfin vous cochez un peu tout ça. Vous expliquez ce que vous avez eu comme parcours d'études. Alors c'est pas limitant. C'est-à-dire, si vous êtes autodidacte, vous serez aussi matché avec un jeune. C'est juste que on essaye quand même de faire correspondre les filières d'études parce qu'on se dit ça crée un lien tout de suite, quoi. Un jeune qui est en prépa, on essaiera de le matcher avec quelqu'un qui a fait une prépa parce qu'on se dit ils auront tout de suite des sujets de discussion assez pratiques à partir desquels ils pourront enrichir la relation. Enfin au moins ils auront une base de discussion. On vous demande quelques hobbies que vous pouvez avoir, parce qu'on dit un jeune qui aime le foot, on va le connecter avec quelqu'un qui aime le foot, là aussi ça peut aider à briser la glace par exemple. On vous demande évidemment votre région, Et ensuite, on va vous proposer quelques temps de formation. C'est une proposition, c'est pas une obligation, mais on va vous inviter à prendre un peu connaissance de ce que c'est que la posture du mentor. Et puis, vous aurez aussi des trousses à outils en fonction des différents sujets. Si par exemple, le jeune vous dit bah, « j'ai besoin de faire mon CV », on aura quelques contenus pour vous aider à l'aider sur comment faire son CV. Voilà, donc vous avez des contenus en ligne. Et puis ensuite, bah, vous patientez un petit peu. Ça va être entre 3 et 10 jours de patience pour vous matcher avec un jeune. Pourquoi ? Bah, parce que concrètement, il faut qu'on trouve un jeune qui vous corresponde. Alors, il y a un algorithme de matching, mais on revérifie quand même, notamment la motivation du jeune. On n'a pas envie de vous connecter avec quelqu'un qui se manifestera plus, donc on demande à un jeune, et ça se passe en off, c'est-à-dire que vous, en tant que mentor, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais en gros, quand on a trouvé un jeune qui vous correspond, on va lui demander de valider le fait qu'il est bien d'accord pour lancer une relation de mentorat avec vous. Et une fois qu'il nous a répondu, ce qui peut prendre un peu de temps, et puis s'il ne répond pas, il faut qu'on aille voir un autre jeune, on crée la connexion. Voilà. Donc là, ça se passe par mail, par SMS, on vous indique que vous êtes libre de commencer à la discussion, et puis après, bah, c'est à vous de prendre contact, de fixer vos objectifs de mentorat, votre calendrier, et nous, on va régulièrement venir vous solliciter par SMS, par mail, pour savoir si la relation se passe bien. Alors, si ça se passe bien, nous, on se contente de cette information. Si vous ne répondez pas, ou si l'un des deux ne répond pas, ou si vous nous dites que ça se passe mal, bah là, il y a intervention de nos équipes. En gros, on vient voir, on appelle, qu'est-ce qui se passe, et on essaye d'aller au bout, soit c'est réparable, entre guillemets, soit on change de binôme en disant, OK, bah, y en a un des deux qui ne joue pas le jeu ou qui ne joue plus le jeu, ils se sont pas trouvés, ça peut arriver, et on recrée autre chose. Voilà, c'est ça l'idée. Avec une petite particularité qui est que si on est sur un jeune défavorisé, on essaiera de travailler la relation plus dans la durée. Si on est sur un jeune favorisé qui veut un coup de main sur son orientation, ce sera très ponctuel. On lui donne un coup de main, mais on n'ira pas forcément plus loin. Si c'est un jeune boursier défavorisé, etc., etc., on essaiera de vous inviter tous les deux, jeune et mentor, à enrichir la relation. Vous êtes rencontrés parce que, par exemple, le jeune rentrait en première année d'études sup et il est un peu paumé pour organiser son travail. Vous lui filez un premier coup de main, on va vous dire « Ah, là, à Bac plus 2, il va y avoir un moment où il va falloir chercher un stage. » Et si vous alliez continuer ensemble la relation pour que vous puissiez l'aider à trouver un stage, etc., etc. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une expérience utilisateur plus riche pour les jeunes issus de milieux défavorisés.
Et on est bien d'accord, un mentor peut avoir un seul mentoré, c'est bien ça ? Ou alors c'est plus...
Ouais, c'est plus ouvert que ça.
On l'a
testé. Et le fait d'avoir deux mentorés, quand on a un mentor qui maîtrise un peu son rôle, c'est jouable. Ça ne nuit pas en termes d'impact, ni même en termes de gestion du temps. Donc c'est les mentors qui nous l'ont largement demandé. On l'a testé, c'est plutôt efficace. Donc on se l'interdit pas. Bon, par contre, on en reste à deux.
Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux me raconter une belle histoire entre un mentor et un mentoré, si c'est possible?
Ouais, bien sûr, des belles histoires. J'en aurais un paquet de belles histoires à vous raconter, parce que c'est ça qui est assez paradoxal. Tu parlais tout à l'heure du fait que le mentorat n'est pas connu en France. Alors, le mentorat dans l'entrepreneuriat, si, c'est sans doute là où c'est le plus développé et le plus démocratisé. Et on a beaucoup de choses à apprendre du mentorat dans l'entrepreneuriat. Mais ailleurs, c'est pas connu, alors que paradoxalement, quand tu interroges des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont un tant soit peu réussi, avec toutes les guillemets derrière le terme, en tout cas qui ont fait des beaux parcours d'études, ils te racontent tous qu'il y a eu des rencontres décisives. Tous. Des gens qui, en fait, ils ont été mentorés sans forcément s'en rendre compte. Tous te disent ça. Alors, ça peut être un prof, peut être un ami de la famille, peut être un voisin, n'importe qui. Moi, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter, parce que c'est un mentorat très, très ponctuel, mais c'est justement un peu de cet ordre-là. C'est un jeune qui m'a raconté ça. Il est venu me voir dans un atelier collectif qu'on faisait pour les mentorés de l'article 1. Et En gros, il m'a expliqué comment s'était fait son cheminement. Il m'a dit, il était donc en terminale dans un lycée grande banlieue parisienne, voilà, quartier quoi. Issu de l'immigration, ses parents des emplois un peu qualifiés. Je crois que sa mère travaillait pas. Non. Lui, il était pas trop mauvais élève sans être non plus avec des résultats mirobolants. Et en gros, dans son lycée, ceux qui étaient comme lui et qui avaient des résultats pas extraordinaires mais honorables, ils allaient dans le BTS du coin. C'était un BTS comptabilité. Voilà. Donc, il s'apprêtait à faire ça sur Parcoursup. À l'époque, ça s'appelait pas Parcoursup, mais bon, oui. Il s'apprêtait à faire ça. Et il m'a dit qu'un jour, il s'est senti pas très bien, il a un peu mal au ventre, machin. Donc, il a pris rendez-vous avec son médecin de famille, qu'il voyait depuis 15 ans. Et comme c'était un peu en urgence, il a pris le dernier rendez-vous du soir, quoi. Voilà. Donc, le médecin l'a vu, voilà. Bon, bref, et à la fin, ils ont un peu discuté. Le médecin lui dit, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment, etc. Ah, je suis en train de remplir mon dossier Parcoursup, qu'est-ce que tu vas faire, etc., etc. Et il se trouve que le médecin avait un fils en terminale, dans un autre lycée, et que ce fils avait à peu près les mêmes notes, et que le médecin lui avait expliqué l'existence des classes préparatoires, et que son fils était inscrit en classe préparatoire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le médecin a expliqué à ce jeune ce qu'étaient les classes préparatoires, a regardé ses notes et l'a aidé à inscrire la classe prépa sur Parcoursup. Ils ont fait le dossier en ligne, dans le cabinet médical pour le dernier rendez-vous et il a été admis. Et c'est comme ça que sa vie a changé. C'est-à-dire que il a suffi de vraiment pas grand-chose, un peu de temps, un peu de bienveillance pour lui ouvrir des horizons qu'il n'aurait sans doute jamais dépassé. Il aurait peut-être été très heureux avec un BTS comptabilité, sauf que maintenant, il est en école de management et son destin n'est évidemment pas du tout le même que si il avait fait le BTS du coin, où il se serait d'ailleurs peut-être pas plu parce qu'il aurait été là un peu par hasard et pas forcément sans que ce soit une motivation profonde. Et ça, c'est juste pour dire que des histoires comme ça, il y en a plein, et on s'aperçoit que le destin, il est encore très fortement lié au hasard des rencontres, alors que ces rencontres, elles devraient être possibles pour tous. C'est juste ça qu'on essaye de faire, moi. C'est que moi, j'ai plein de jeunes qui me disent, en fait, moi, je suis aujourd'hui bac plus 3, 4, 5, et je m'en suis à peu près sorti, mais j'ai eu une chance folle, et je connais plein de jeunes qui étaient plus smart que moi, qui sont restés plantés sur les bancs de l'école, qui n'ont pas fait les bonnes rencontres, qui n'ont pas fait les bonnes décisions, que personne n'a aidé à surmonter des moments un peu compliqués ou à prendre des bonnes décisions au bon moment, et du coup ils sont plantés plantés, ils n'ont pas été aussi loin que ce qu'ils auraient pu faire. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent avec ce sentiment un peu d'imposture en disant pourquoi moi, pourquoi pas eux. Et ça, je suis persuadé que ce genre de levier de regard extérieur de quelqu'un qui a les infos à des moments décisifs pour ces jeunes qui n'ont pas autour d'eux des gens qui peuvent leur apporter des infos dont ils ont besoin, ça peut vraiment être décisif. Et c'est ça le mentorat, en gros, c'est être présent dans des moments clés pour aider à grandir.
Je t'en rejoins sur l'importance des rencontres et aussi ce côté aléatoire des rencontres. Je vais parler assez rapidement d'une expérience personnelle, effectivement, d'une personne qui est devenue au fur et à mesure une mentor, mais qui était juste à la base une simple rencontre, on va dire. C'est que vers 14-15 ans, j'avais créé un petit compte Twitter qui parlait de football à l'époque. Et très rapidement, le compte Twitter a pris de l'ampleur jusqu'à avoir un peu plus de 10 000 abonnés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 17 ans, un jour, je reçois un message de la directrice communication d'un club de football professionnel qui souhaite me rencontrer et qui veut me recruter au sein de ce club de football professionnel. Se passe la rencontre, ça marche très bien, je suis recruté, j'y travaille pendant quelques temps, et cette rencontre, elle s'est passée en 2014, et 7 ans après, cette personne, je la vois encore très fréquemment, aujourd'hui elle est dans un autre domaine, mais elle continue justement on continue de se voir, de prendre des nouvelles, sans avoir aucune envie d'un intérêt particulier, etc. C'est vraiment une relation hyper naturelle avec une personne génialissime. Et on s'apporte tous les deux des choses mutuelles. Et tu vois, ça, c'est je pense que c'est une de mes premières mentors, tu vois, mais sans que, effectivement, au départ, je me disais que ça allait être une mentor par la suite, tu vois. Donc c'est, je suis totalement à 200% d'accord avec ce que tu as dit il y a quelques minutes. Alors, on va finaliser cette partie sur article 1. J'ai une question aussi qui est aussi importante, c'est combien y a-t-il de personnes derrière cette association ?
Là, nous sommes, alors ça a pas mal poussé hein, depuis quelques mois, puisque forcément on est dans une grosse phase d'accélération avec un jeune inventeur. On est les principaux attributaires de la subvention en fait. Donc on a, c'est aussi parce qu'on a les objectifs les plus gros. On a poussé et on est aujourd'hui à peu près 120. 120 personnes, une bonne moitié dans les régions, un peu plus dans les régions, et puis une autre moitié à l'ascenseur, à Paris. On va continuer, on devrait être d'ici mars prochain entre 140 et 150. Donc on recrute, avis aux amateurs, on recrute dans le digital, dans l'animation sur le terrain, on recrute en fundraising, on recrute en com, bref, on a besoin de d'énergie et d'expertise. Et puis derrière, il y a surtout des bénévoles. Donc si j'ajoute les mentors avec ceux qu'on appelle les éclaireurs, les éclaireurs chez nous sont des étudiants qui aident les lycéens sur leur orientation, on est à plus de 15 000 bénévoles. Partout sur le territoire. Oui, ça commence à faire, en tout cas à l'échelle associative, ça fait un peu de monde, ouais, voilà.
Et en même temps, c'est ce qu'il faut aussi pour bouger les choses, quoi.
Oui, je crois vraiment. C'est-à-dire que c'est peut-être gros à l'échelle associative, mais vu l'ampleur des besoins, c'est-à-dire que c'est faramineux. Vous avez énormément de jeunes en France. Dans les quartiers, dans les zones rurales, dans les bassins désindustrialisés, qui sont justement dans cette situation d'inégalité des chances, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est assez paradoxal. On a des systèmes d'études en France. Je ne veux pas dire que tout est gratuit, loin de là. Hein, on sait que c'est pas le cas, mais on peut quand même essayer de faire des études supérieures. On n'est pas du tout dans les standards anglo-saxons de coût des études supérieures. Beaucoup de jeunes n'ont même pas les moyens nécessaires en dépit des aides qui sont accordées. Enfin, on survit pas en France avec une bourse d'études supérieures, hein. Ça, c'est pas vrai. On a vu les dégâts pendant la période du confinement. Moi, j'ai vu plein de jeunes qui n'arrivaient pas à s'en sortir parce qu'il n'y avait plus de petits jobs. Et j'ai même des situations de jeunes extrêmement doués ont dû lâcher leur appartement parce que la bourse suffisait pas, et je reconnais même un ou deux qui ont été bossés à l'usine, quoi, parce qu'il ne restait plus que ça. Donc, le manque de moyens est une vraie difficulté, mais il y a aussi effectivement les barrières mentales, quoi. C'est-à-dire des jeunes qui et leurs parents. Je pense que ça explique pas mal de nos difficultés politiques d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'en France les dés sont pipés en ce qui concerne l'accès à l'éducation, c'est vrai, et l'accès à l'emploi de leurs enfants.
Et pendant notre échange, tu as dit aussi que tu voulais faire bouger les stats. Et pour faire bouger les stats, justement, c'est clair que 15 000 bénévoles et une équipe de 120 personnes, c'est le minimum justement pour pouvoir faire bouger les stats.
Ouais, exactement.
On va pouvoir passer à la partie bilan. Quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ?
Je pense que le plus difficile, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est vraiment la question du changement d'échelle à rythme accéléré. Parce qu'effectivement, on a dit qu'on allait passer de 2000 à 20 000 mentors cette année. C'est énorme. Et on est en train d'à peu près tout faire en même temps. Pour essayer de faire ça en un temps record. Je suis pas inquiet sur notre capacité à le faire. C'est-à-dire qu'on, vous me donnez 2 ans de plus, je le fais tranquillement. Enfin, tranquillement. Pas tranquillement, mais on le fait. Voilà. Là, il faut que je le fasse en moins d'un an. Et c'est extrêmement dur parce qu'il faut lancer toute l'ingénierie digitale, sachant que, il faut que j'ai les ressources tech pour ça. Donc, on les a. Il faut un peu de financement. on n'a pas les moyens d'une start-up, je n'ai pas levé des fonds publics, des fonds privés, pardon, pour financer mes innovations. Ça, c'est un des gros enjeux, le financement du monde associatif, des innovations digitales dans le monde associatif, c'est extrêmement compliqué. Donc, du coup, on est obligé de faire avec des moyens finalement relativement contraints, aussi bien que des start-up du digital en pleine croissance. Il y a forcément un choc culturel pour les équipes. On passe d'une asso où on était relativement proche des bénéficiaires, avec des équipes qui sont très sensibles à la relation de proximité, à une asso où on continue à faire ça, mais on fait aussi du digital, avec des nouveaux savoir-faire, du marketing digital, de l'expertise. De l'expertise tech à différents niveaux, des experts, des soft skills et de l'insertion professionnelle, des nouvelles formes de fundraising pour sortir un peu du mécénat traditionnel. On développe plein de nouveaux métiers avec des nouveaux entrants et il faut créer une culture commune, c'est pas évident. Et puis une obligation de réussite, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux qu'on réussisse en moins d'un an à faire ce changement d'échelle, parce que je pense qu'on n'aura pas de chance de le faire. Moi, je veux prouver à l'État, aux entreprises, aux collectivités locales que le mentorat, on peut le démocratiser en gardant un impact qualitatif. Et j'ai envie que d'ici un an, ça fasse partie du paysage. C'est-à-dire que les acteurs publics et les entreprises se disent « Ok, bah, le mentorat, ça vaut la peine de continuer à mettre un peu de sous dessus parce qu'on voit que ça a une vraie utilité pour les jeunes et que ça correspond aussi à une vraie demande d'engagement de la part des salariés. » Donc, c'est en ce moment que c'est le plus dur. Voilà, on passe de 60 à 120 personnes. Donc, le changement culturel, il est compliqué. J'allais dire que c'est même, à mon avis, aussi compliqué que la phase de fusion, qui n'était pas simple non plus, hein, loin de là. Mais là, notre contrainte, c'est quand même vraiment celle du temps, qui est extrêmement restreint. Faut tout faire très vite. Voilà. Mais bon, c'est un challenge et les équipes sont assez emballées par ça aussi. Donc, c'est pas une difficulté insurmontable, mais c'est un peu trapu, quoi.
C'est sûr. Et l'autre question, bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ?
Moi, je suis le plus fier de les prémices de ce que je disais tout à l'heure, quand je disais on veut changer les chiffres en matière de mobilité sociale. Deux aspects de fierté dans l'actualité récente. Le premier, c'est notre sujet devient audible. On parle de plus en plus de la question de la mobilité sociale. Il y a eu toute une rentrée littéraire là, avec beaucoup d'écrits sur la question des transclasses, par exemple. Donc, le sujet sort. C'est plus un truc qui ne concerne que quelques sociologues cachés dans un coin que personne n'écoute. C'est quelque chose où, en fait, on est en train de se dire mais si notre pays, par certains aspects, ne va pas bien, c'est peut-être parce que cette question-là est une question centrale et qu'on n'a pas bien adressée. Donc, je l'entends et je trouve que c'est un signe positif. On a sans doute contribué à ce que ça sorte. Et le deuxième point dont je suis assez fier, c'est beaucoup de jeunes veulent nous rejoindre et comprennent ce qu'on fait. Avant, il y a encore 3-4 ans, les jeunes qu'on recrutait, la question de l'égalité des chances, de la mobilité sociale, de la diversité, c'était un peu confus, quoi. Ça correspondait pas à un projet vraiment personnel. Là, il y a beaucoup de jeunes qui tapent à la porte de l'article 1 en disant « Je suis engagé sur ce sujet depuis tout petit parce que soit je suis passé dans votre asso, soit j'ai entendu parler des enjeux d'égalité des chances. Et c'est chez vous que j'ai envie de venir parce que je pense que c'est là que ça se passe. » Et ça me rend très fier d'avoir d'avoir des jeunes qui arrivent en me disant j'ai un peu grandi avec article 1 et en gros j'ai envie de m'investir à vos côtés. Bon, après ça rehausse le niveau d'exigence évidemment, hein, parce que ils sont aussi très 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 engagés, mais c'est très bien comme ça. Et ça c'est vraiment une nouveauté et j'ai un regard sur eux assez assez fier, parce que je me dis on a peut-être avec d'autres, évidemment je relativise, hein, mais avec d'autres, un peu contribuer à créer cette génération qui changera les choses.
On va pouvoir passer à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. La première question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie ? Est-ce que tu as eu des mentors, par exemple ?
Non, j'y ai réfléchi et je n'ai pas vraiment eu de mentor. Il y a deux personnes auxquelles je pense. Il y a un monsieur qui s'appelle Jérôme Duval-Amel, qui était directeur général chez SFR. Et moi, j'étais arrivé en responsable RH, etc. Et c'est ce monsieur qui m'a fait un peu sortir de ma réserve. C'est un matin, il m'a appelé en me disant, voilà, j'ai envie de vous nommer directeur. Donc, que vous soyez dans mon comité de direction, que vous preniez en charge des plus gros sujets, que vous preniez en charge d'une équipe, etc. Il me dit, je pense que vous en avez le potentiel, mais je ne sais pas si vous en avez l'envie. Et il avait raison, sur le potentiel, ça c'était son appréciation, mais en tout cas sur l'envie, moi je ne me projetais mais pas du tout là-dedans. Parce que j'avais ma propre gang quoi, d'auto-limitation, c'était pas mon monde, c'était pas pour moi, je voyais ça comme des gens politiques qui se tapaient sur la figure à longueur de journée, je me disais mais je suis pas fait pour être dans ces sphères-là, je serais pas à mon aise, c'est pas mes codes, c'est pas mon monde, vraiment je ressentais ça quoi. Et lui a été le premier à me dire si vous me dites ok je vais vous aider, voilà, je vous laisse une journée de réflexion. Donc c'était ça. Et en me disant à l'issue de la journée de réflexion, soit vous saisissez votre chance je vous accompagnerai, soit vous la saisissez pas et c'est pas bien grave, vous continuerez mais vous irez jamais beaucoup. Voilà. Donc cette personne-là est venue me chercher. Et je sais pas si j'aurais fait ce pas d'aller, ou en tout cas si j'avais cette ambition d'aller plus haut, si c'est, n'était pas venu me chercher. Et la deuxième rencontre, c'est Boris Valbaum, le coprésident de Article 1 et le fondateur de Fratelli. On a deux trajectoires personnelles extrêmement différentes. On a deux personnalités différentes. Mais c'est une rencontre assez magique parce que, en dépit de nos histoires, nos personnalités, même de nos convictions politiques, je pense qu'ils sont différentes. Je sais pas pourquoi, mais on a retrouvé, moi j'ai retrouvé en lui la colère qui m'anime sur ces questions d'inégalité et cette envie de faire toujours plus grand. C'est une rencontre, voilà. Et après, il a fallu qu'on apprenne à bosser ensemble, ce qui n'est rien d'une évidence.
Ça prend.
Ouais, bien sûr, la co-direction, c'est pas simple, mais c'est, bon, y a des côtés aussi assez gratifiants, quoi. Notamment sur la solitude du dirigeant, enfin, la solitude de l'entrepreneur. Quand c'est partagé, c'est tout de suite une autre histoire, quoi. C'est vraiment plus chouette. Mais bref, voilà. Et donc, Boris m'a appris beaucoup de choses, et notamment, j'avais un peu tendance, moi, à être, dans une logique de revanche, du seul contre tous, le petit gars qui vient de milieu défavorisé et qui détient une espèce de vérité, voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Manière. Bon, et Boris, lui, son parcours est très différent. Il n'est pas issu de milieu défavorisé et il est venu sur le terrain de l'égalité des chances par les valeurs. Ouais, il est profondément républicain. Il dit en fait, moi, je pense que la promesse de notre pays, ça marche pas, quoi. Et il fait ce constat en disant, moi j'ai eu, je viens de milieu favorisé et en fait je n'ai eu qu'à travailler, hein, alors que pour d'autres il faut faire plein d'autres choses pour arriver à s'en sortir.
Le chemin est long
et donc du coup ça m'a appris une forme d'humilité en me disant je suis pas détenteur de la vérité et c'est pas nous contre eux, ça n'est pas moi contre eux, il y a aussi des gens qui sont pas moins légitimes que moi sur ce combat, même s'ils viennent de milieux favorisés, mais qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi, je dois aussi être capable de travailler avec eux. Voilà. Et ça a été aussi une partie de mon apprentissage et de ce que j'ai retiré de cette rencontre.
Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui ?
Non, il y aurait eu un temps, il y aurait eu un temps un peu retiré, mais il y aurait eu un temps Barack Obama. Voilà, pour le, peut-être pas d'ailleurs pour la réalité de son action politique, mais plus pour l'inspiration et l'espoir qu'il a su provoquer. Voilà, plus évidemment les ans oratoires, enfin, il y a des éléments de fait, quoi, mais voilà. Mais après, je pense qu'il y a un écart entre l'aura du bonhomme et ce qui, la réalité de ce qu'il a pu faire politiquement, mais lui m'a inspiré un moment. Et après, je dirais, allez, quand même, je vais en citer une parce que je trouve ça emblématique, ce serait Greta Thunberg. Parce que je fonde beaucoup d'espoir sur la jeunesse, en fait. Là, je plutôt que de prendre des vieux ou des anciens, je dis que c'est plutôt là qu'il faut essayer de trouver les gens qui vont trouver les solutions dont on a besoin. Et je trouve remarquable la justesse de son combat, de son propos, avec le bon niveau de radicalité, mais sans aller jusqu'à la rupture. Je trouve que c'est remarquable d'intelligence. Ouais, voilà, je la mettrai en personne qui m'inspire.
Puis une certaine maturité aussi.
Incroyable.
Pour son âge.
Ouais, ouais.
Impressionnant quand même. Ma dernière question pour cette partie, c'est quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaiteraient se lancer ?
Bon, ça va être un peu bateau, c'est tellement vrai. C'est en gros se fier à ses intuitions et à ce qu'on a en soi, sa conviction profonde. Si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins ne pas se dévoyer. Le nombre de gens qui n'ont pas compris ce que je faisais au début, ou qui m'ont dit que ça ne servait à rien, ou que ça existait déjà, et que en gros j'allais me planter, c'est incroyable. Et pas forcément des gens malveillants. Hein. La capacité à croire en son idée, elle est déterminante. Et en gros, j'ai mis 7-8 ans à me dire que ce que j'avais dans mes tripes et que j'essayais de faire avait un sens et avait une utilité. Et auparavant, non, je m'endormais tous les soirs en me demandant mais qu'est-ce que je fous et où est-ce que je vais. Donc voilà, moi ça, je pense que c'est un point important. Le deuxième point, c'est évidemment savoir s'entourer. C'est hyper important d'avoir peut-être pas des mentors, mais encore que, on pourrait dire ça. S'entourer avec peut-être des gens avec qui on travaille dans sa propre équipe, mais aussi à l'extérieur. Des gens qui sont des sparring partners ou des coachs ou des gens avec qui vous pouvez évoquer vos questions, vos doutes, vos réflexions, parce que le patron entrepreneur qui sait tout faire, qui est visionnaire et qui a réponse à tout, ça n'existe pas ou ça me paraît dangereux. Donc il faut aussi être capable de construire ses décisions en s'appuyant sur des regards extérieurs. Donc, c'est pas évident. Voilà, faut trouver 2-3 personnes, pas plus. Et puis le dernier point, c'est savoir s'économiser et profiter de la vie, ce qui est pas évident du tout quand on est entrepreneur. On peut se laisser bouffer par ça. Hein. Y a un côté drogue dans le travail, parce que c'est gratifiant, parce que ça apporte un sens, parce qu'on est libre, parce qu'on est son propre patron. Enfin, je l'ai vécu, donc je vous parle en expérience, mais je suis passé une ou deux fois à proximité du burn-out parce que je bossais trop. Et en fait, c'est contre-productif. Si vous êtes capable de vous ménager des temps de pause, ben vous serez meilleur dans le boulot. Donc je pense que c'est prendre soin de soi quand on est entrepreneur et être capable de se fixer des limites, c'est une hygiène de vie qui fera que votre projet sera meilleur.
Et c'est tout un apprentissage de vie, justement. Je pense que c'est au fil des années aussi où on apprend de plus en plus à prendre soin de soi et voilà, et faire attention à chaque petit détail, c'est quelque chose de très important, quoi. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on ne sait pas quand on est jeune, mais quelque chose qu'on apprend au fil des années.
Ouais, c'est ça. Alors après, c'est pas forcément en termes de, mais pas obligé de dire je vais bosser 2 jours sur 5, quoi. Hein. Ça peut être compatible avec des charges importantes, mais juste c'est être capable de dire quand on est en famille, ou quand on voit des potes, ou quand on a, quand on prend même un temps resserré de coupure pour aller voir un spectacle ou faire un micro voyage ou je ne sais quoi, être capable de couper. C'est déconnecter, quoi. Ça me paraît, et effectivement, c'est un apprentissage, c'est pas évident. Alors, j'allais dire, dans le monde que je connais encore plus, dans l'associatif, c'est redoutable parce que vous avez l'impression de, modestement, de sauver le monde. Et vous êtes toujours frustré parce que les besoins sont immenses et votre capacité d'action est limitée. Il y a un moment, il faut savoir qu'à 20h, c'est plus le moment de sauver le monde, quoi. Faut s'arrêter. Et on recommencera demain. Et ça, c'est. Ça m'a mis des années avant que je comprenne ça.
On va pouvoir passer à la dernière partie de cet échange. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Ouais, il y en a un que j'ai redécouvert là. C'est pas très original, mais je l'avais lu quand j'étais ado, j'avais beaucoup aimé, et là il ressort, c'est Dune. J'ai beaucoup aimé, okay. Dune avec une forte dimension onirique, avec un monde parallèle. Alors là, en termes d'échappatoire, c'est génial, quoi. Les 100 premières pages sont un peu complexes parce que c'est un vocabulaire spécifique, mais après, quand on se laisse embarquer, on est dans une réflexion onirique, philosophique, et en même temps dans un imaginaire foisonnant. C'est une très belle manière de s'échapper. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ils aient vu ou non le film, ça n'a pas vieilli et ça reste, pour ceux qui aiment ça, un grand bouquin de science-fiction.
Très bien, la recommandation est notée, même enregistrée, on va dire. Est-ce que tu as un film à me conseiller ?
Ouais, moi j'ai 2-3 films fétiches. J'en citerai 2. C'est pas des récents, mais c'est des trucs qui m'ont marqué. J'avais beaucoup aimé Brazil. Alors c'est très très vieux, mais là aussi, en dénonciation de l'absurde bureaucratique, c'était remarquable. Et puis il y avait un film que moi je revois avec toujours énormément d'émotion, c'est Bienvenue à Gattaca. Voilà, avec, je trouve, ça aussi c'est un vieux film, mais une actualité de plus en plus forte sur le génisme, sur la difficulté à accepter la différence, sur l'impact de la techno sur nos vies. Enfin, ça pose des sur la part du rêve. Je trouve que ça pose des questions de fond qu'on se posera encore, à mon avis, pour des décennies.
Et la dernière question qui arrive sur chaque épisode, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de prochains épisodes ?
Je vais rester dans l'univers que je connais un peu mieux, hein, qui est celui de l'entrepreneuriat social. Moi, il y en a un que je te conseille parce que je trouve qu'il a une démarche extrêmement innovante, percutante. C'est assez récent, son initiative, mais je trouve qu'il cartonne. Et ce gars est un vrai visionnaire, à mon avis, hein. C'est Anthony Babkin, le fondateur de Diversidays. Je pense que dans 5 ans, ce type va tout révolutionner.
Ok, génial. Super. Super, Rocco. Eh bien, écoute, je le contacterai. Je te remercie pour cet échange très, très cool. C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, autour de la diversité notamment. Moi, j'en ai jamais parlé dans ce podcast, mais c'est vrai que pour ma part, mes parents sont arrivés très jeunes en France, notamment du Portugal. L'entrepreneuriat n'était pas une option. Il fallait arriver en France pour travailler, pour avoir un emploi solide et gagner de l'argent pour vivre finalement. Donc voilà, c'est des sujets que j'aimerais de plus en plus aborder dans les prochains épisodes. Donc je te remercie pour tout cet échange. Ton parcours est, je pense, très inspirant et va inspirer certainement beaucoup de jeunes, hein, aussi qui écoutent le podcast, mais aussi de moins jeunes, hein, puisque l'audience est assez large. J'espère que ça t'a plu, j'espère que toi qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Si tu es jeune, n'hésite pas à aller sur demain.org potentiellement si tu recherches un mentor. Si tu veux devenir mentor, bah, c'est aussi possible, hein, on en a discuté et je pense que ça peut voilà, beaucoup apporter justement à des jeunes qui en ont besoin. Donc voilà, je pense que le message est passé. Et puis on se retrouve potentiellement, je ne sais pas, peut-être que je te réinvite dans 2 ans dans le podcast
pour
me parler de toutes ces avancées d'article 1 et je ne doute pas que voilà, y aura beaucoup de choses de réaliser et que les stades vont bouger.
J'espère. Les stades, bah écoute, ouais. On y croit, on y va. Merci beaucoup.
Merci à toi Benjamin.
Au revoir.
Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, @serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois@serial-entrepreneur.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.